Nous revoilà pour la suite de l'épisode des 10 causes qui sapent la confiance en nous. Pourquoi certaines personnes semblent avoir une confiance en elles infinie et d'autres doutent en permanence? D'où est-ce que ça vient? L'épisode précédent, nous avons exploré les 5 premières causes qui abîment la confiance en nous. Voici les 5 suivantes.
Vous avez été nombreux à nous dire que la confiance en soi est votre plus gros obstacle à être vous-même, à vous sentir à votre place et à avoir des relations épanouissantes. Le doute de soi, ne pas se sentir à la hauteur, le syndrome d'imposteur, tout ça peuvent nous amener à nous sous-estimer, à nous sentir anormal et à abîmer nos relations. Parce qu'on a tous le droit d'être nous-mêmes et qu'on mérite d'oser l'être. On vous concocte un coaching spécial confiance en soi, bientôt disponible, pour vous transmettre les fondamentaux de la confiance en soi. Gardez un œil ouvert sur notre compte Instagram, @jevaismieux.jvm, pour être sûr de ne pas le louper. On ne peut pas vous en dire plus pour le moment, mais on veut que ce soit vraiment accessible à tout le monde, sans question d'argent, parce que tout le monde le mérite vraiment.
Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
Alors la sixième cause qui peut nous avoir fait perdre confiance en nous, c'est les relations toxiques qu'on a eues et qui nous ont brisés. Une relation toxique, alors, c'est...
Très à la mode.
Très à la mode. C'est très vaste aussi comme terme. Il y a beaucoup de choses, en fait, là-dedans. Mais globalement, ça va être une relation qui va nous faire chuter. Souvent, qui va faire chuter les deux, d'ailleurs. Et chuter à plein de niveaux. Chuter dans notre vie, chuter dans nos émotions et aussi chuter dans notre confiance en nous. Et souvent, c'est parce qu'il y a des éléments de dénigrement. En fait, si on me répète ou qu'on me fait sentir suffisamment souvent que je ne vaux rien, il y a un moment où ça va rentrer. C'est un principe de conditionnement. C'est-à-dire que si c'est répété suffisamment de fois dans le temps, même si à la base j'étais une personne qui avait plutôt confiance en elle, que j'étais plutôt joyeuse, que j'étais plutôt du genre à tenter, à pas avoir peur, à oser, à prendre des risques, etc. Si je me mets dans une relation qui devient toxique, et pour des mécanismes sous-jacents qu'on ne pourra pas aborder ici, mais... et que cette relation, elle se met à faire un travail de sape et d'usure au quotidien, de dénigrement de moi, il y a un moment, je vais perdre la confiance en moi, parce que ça va s'inscrire à l'intérieur de moi, ça va rentrer.
Surtout quand il y a une alternance émotionnelle forte, une espèce de roller coaster, là.
Oui.
Vous savez, c'est cette sensation de... La personne m'encense et me dit que je suis génial et que je suis tout pour elle et que c'est formidable et qu'il peut ou elle peut pas se passer de moi et que je suis la quatrième merveille de l'univers. Et le lendemain, que la personne me dénigre dans qui je suis, voire m'insulte, voire enfin critique concrètement tout ce que je fais. Et en fait, le cerveau à ce moment-là, il vrille et il perd pied parce que il ne comprend pas pourquoi une personne qui est supposée m'aimer va l'instant d'après me dénigrer.
C'est ça.
Si cette personne elle-même elle me veut du bien, donc ce qu'elle dit est vrai. Et en fait, même si au début, on réussit à résister et on se dit « Non, mais attends, c'est n'importe quoi ce que cette personne est en train de me répéter. » En fait, au bout d'un moment, le message passe.
Oui, parce qu'on donne du crédit à ce qu'elle dit, on donne du crédit à ce qu'elle pense de nous, parce que, comme tu dis, elle est supposée nous aimer et elle est supposée avoir notre meilleur intérêt à cœur. D'ailleurs, parfois, la personne elle-même le dit en disant « Moi, je dis ça, c'est pour toi. Hein, » ou « Il serait temps que tu t'en rendes compte. » Ou des choses comme ça qui sous-entendent que c'est la vérité et qu'on devrait le prendre en compte. Et au bout d'un moment, notre cerveau, il n'est pas complètement hermétique. Il ne peut pas laisser ses messages à l'extérieur. A fortiori, si bien sûr, ça vient confirmer des messages que j'ai reçus précédemment dans mon enfance. Donc là, on retombe sur les premières causes, les messages qui invalident, le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur, etc., etc. Si la personne en face, elle appuie sur tous les bons boutons et qu'elle me redit des choses qui correspondent exactement à ce que j'ai entendu dans mon enfance, bien sûr, ça va rentrer encore plus vite à l'intérieur de moi.
Oui, on retombe sur ce qu'on avait dit dans les épisodes de podcast sur la honte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faux de dire qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mmh. Non. En fait, ce qui blesse, c'est ce que moi, je crois déjà vrai a priori et c'est que ça. Tu es en train de confirmer. C'est ces messages-là qui ont encore plus d'impact et encore plus de capacité à me toucher à des endroits où j'ai déjà mal.
Oui, c'est ça. La septième cause, c'est les vieux schémas qu'on n'a pas identifiés à l'intérieur de nous et qui, du coup, ont tendance à se répéter. Comme à peu près tout dans la vie, quand on n'a pas bien compris notre leçon, entre guillemets, ça se répète autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on comprenne bien le message. On peut trouver ça très injuste et pas cool, mais c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Et en fait, quand il y a un schéma que j'ai pas identifié, dont j'ai pas conscience, que j'ai pas bien compris ou que j'arrive pas à faire bouger, il va se répéter et du coup, il va répéter les conséquences délétères, toxiques, douloureuses dans ma vie aussi. Et ça m'amène à perdre confiance en moi parce que je vois que je me mets systématiquement à répétition dans les mêmes circonstances néfastes pour moi. Typiquement, ça se voit dans les relations amoureuses, par exemple. Si j'ai tendance à choisir des partenaires qui sont pas bons pour moi ou qui finissent par me blesser, par me trahir, ou qu'il y a des relations toxiques qui ont tendance à se répéter et à se remettre en place, petit à petit, ça va faire grandir à l'intérieur de moi la croyance que je ne suis pas capable de choisir un partenaire correctement, que je ne suis pas capable de créer une relation saine, que de toute façon, tous ceux sur qui je vais tomber seront des pervers narcissiques, des ci, des ça, des machins, etc. Et que, du coup, je ne peux plus du tout avoir confiance dans la façon dont je fais le choix d'un partenaire, dans mon radar, et en moi-même, finalement. Je ne peux pas faire confiance dans ce que je ressens, dans mes émotions, dans mon attirance pour telle ou telle personne, parce que je me suis tellement trompée avant, parce que chaque fois que j'ai été attirée par quelqu'un, ça a fini par tellement faire mal, que la prochaine fois, il faut que je sois extrêmement méfiante, voire que je fasse une croix tout court sur les relations amoureuses, parce que de toute façon, je ne suis pas capable de trouver le bon partenaire ou de faire le bon choix ou de me protéger. Et ça, c'est terrible parce que le sujet à ce moment-là, c'est pas est-ce que je suis capable ou pas, parce que bien sûr que je le suis. C'est pas est-ce que l'amour est fait pour moi ou pas, parce que bien sûr qu'il est fait pour moi comme il est fait pour tous les êtres humains. Le sujet, c'est ces vieux schémas qui n'ont pas été identifiés, qui mettent le bazar en fait, qui parasitent le processus de choix. Si j'arrive à voir ces vieux schémas, si j'arrive à mieux les comprendre, si j'arrive à les faire bouger, alors mon choix de partenaire pourra être beaucoup plus libre, libéré de ces schémas-là, de ces besoins sous-jacents, de ces croyances inconscientes, de ces mécanismes toxiques, etc., etc. Et là, je serai tout à fait capable de faire le choix d'un partenaire qui sera bon pour moi. Il sera pas parfait, hein, mais il sera bon pour moi. Mais ce qui fait que je choisis les mauvais, c'est parce qu'en fait, c'est pas moi qui choisis, c'est mes vieux schémas.
Et c'est difficile parce que souvent, si ce schéma il se répète, c'est qu'en fait, il y a un besoin qui a du mal à être assouvi.
Oui.
Et c'est difficile de voir quels sont les besoins sous-jacents. Nous, on dit qui est caché sous la table.
Oui.
C'est-à-dire faire cet exercice qui va permettre de mettre en lumière ce qui n'est pas visible, la partie immergée de l'iceberg, peut éventuellement nous permettre justement de se dire, attends, ah mais si je continue à faire ça, si je répète ça, ah mais c'est parce qu'en fait j'ai besoin de ça. Du coup, si j'identifie ce dont j'ai besoin, je peux trouver une autre manière d'assouvir ce besoin.
Oui.
Parce que souvent, on cherche à assouvir notre besoin à des endroits qui n'ont rien à voir avec la nature du besoin. Donc on peut trouver ça par exemple dans la manière que l'on a de choisir nos partenaires professionnels. Moi je vois par exemple, j'ai eu plusieurs fois des partenaires masculins pour créer des entreprises et des activités professionnelles. Et les trois premières associations, elles se sont toutes finies de la même manière, très très mal. Et à pas comprendre pourquoi, parce que elles sont finies mal sur de la violence émotionnelle, c'est-à-dire sur de la douleur, comme si ton meilleur ami te trahissait. Alors qu'en fait, là, on est dans un cadre professionnel, on n'est pas dans un cadre amical. Pourquoi est-ce que cette scène se répète? Mais en fait, cette scène, elle se répète parce que à l'intérieur de moi, je cherchais à assouvir un besoin qui n'était pas visible. Je cherchais à assouvir un besoin de reconnaissance. Et pour comprendre ça, il vous suffit de vous référer à l'épisode de podcast précédent, au point numéro 1, numéro 2 et numéro 3, qui montre comment l'enfant construit un déficit de confiance en lui et cherche à le compenser par de la validation extérieure, par de la validation extérieure dans les humains en général, mais souvent de la validation de la famille, et plus particulièrement le regard du père, l'approbation du père. Et on se rend compte qu'on peut facilement retrouver ça dans le contexte professionnel, où tout à coup, on s'associe avec quelqu'un, on crée une activité. Donc, officiellement, le sujet, c'est qu'une entreprise soit en train de faire un business.
Et puis, on croit qu'on le choisit parce qu'on a des compétences complémentaires, parce que ça marche bien, parce que tout ça.
Parce que, voilà, et on va pouvoir faire cette entreprise et acheter, vendre des produits, fournir des services, voilà. Et on croit que le sujet, c'est l'entreprise. On croit que le sujet, c'est gagner de l'argent en vendant des services ou des produits. Alors qu'en fait, non. Si on a choisi cette personne, c'est parce que dans les yeux de cette personne, dans les comportements de cette personne ou dans les émotions que l'on vit au contact de cette personne, on est en train de nourrir un besoin sous-jacent qui n'était pas visible au départ.
Qui n'était pas officiel, qui n'était pas le sujet de l'entreprise.
Voilà. Donc en fait, il y a deux scènes qui sont en train de se passer en même temps. Il y a une scène officielle, professionnelle, ouais, c'est génial, on travaille dans le même bâtiment et on vend des produits, et une autre scène complètement invisible dans laquelle on cherche à compenser un besoin sous-jacent auquel on n'a pas accès consciemment. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, si dans le jeu professionnel, le besoin sous-jacent continue à être nourri, ça va. Mais ça, en général, ça dure qu'un moment.
Et oui.
Ça dure qu'un certain temps. Parce qu'au bout d'un moment, on finit par ne pas être d'accord pour X ou Y raisons.
Forcément.
Normal, qui sont des raisons professionnelles. Mais à ce moment-là, l'interprétation que l'on va avoir de la scène, elle n'est pas professionnelle. Elle est émotionnelle. Elle est personnelle. Donc, le non à acheter une nouvelle voiture ou pas, ou faire un nouvel investissement, est perçu comme « je ne t'aime plus ».
C'est ça.
Et à ce moment-là, ça déclenche une douleur émotionnelle à l'intérieur de nous qui va complètement foutre en l'air le partenariat et l'interaction.
Oui, ça me fait penser à ma propre association. Moi, en tant que psychologue, je travaillais particulièrement dans le domaine de la justice et notamment des violences psychologiques. Et je me suis associée avec une avocate spécialisée dans ce domaine-là. Et moi, je pensais que cette association, elle était née du fait que ben, on s'était trouvé exactement au bon moment, au moment où moi, je cherchais à m'installer et à travailler avec des avocats ou des gens dans la justice. Elle cherchait justement une psychologue pour travailler avec elle aussi sur les violences psychologiques. On s'est contactés, on a eu une personne qui nous a mis... Tout paraissait être pile poil, et c'est pour ça. Et c'est parce qu'on s'est très bien entendu, c'est parce qu'on était d'accord sur le fond et tellement d'autres choses, parce qu'on avait les mêmes valeurs. C'était pour ça qu'on s'associait. Et je me souviens encore du jour, de l'émotion, je sais même dans quelle rue j'étais en train de marcher, au moment où j'ai réalisé qu'en fait je vivais dans la relation avec elle une émotion très proche de ce que je vivais dans la relation avec ma mère. Et en fait cette femme, elle a l'âge d'être ma mère, elle a quelque chose de cette prestance qui me rappelle ma mère, et il y avait des enjeux émotionnels de cet endroit-là qui se jouaient. Et dans un moment où notre association est devenue plus tendue, où la distance s'est fait plus grande entre nous, où la communication était plus difficile, moi j'étais en train de vivre quelque chose vraiment du rejet de la petite fille très 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 fort. Et le jour où j'ai réussi à mettre le doigt là-dessus, sur le fait que en fait, j'étais en train de rejouer avec cette avocate quelque chose de la relation avec ma mère, d'attendre d'elle qu'elle me fasse confiance, qu'elle m'aime, qu'elle me valorise, qu'elle me dit « oui, c'est génial ce que tu fais », etc., etc. Le jour où j'ai compris que c'était ça qui était en train de se jouer, j'ai pu me repositionner en tant qu'adulte, retrouver ma force. Je me souviens, j'avais même fait un dessin en disant « ok, c'est quoi mes racines à moi ?» C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai l'impression que ma pratique professionnelle dépend en très grande partie de cette avocate, mais en fait, moi, j'ai mes propres capacités, j'ai mes propres racines. Je ne suis pas à sa merci, je ne suis pas complètement dépendante d'elle. Et ce jour-là, j'ai vraiment retrouvé mon ancrage à moi, et ça m'a permis de me positionner complètement différemment dans la relation, d'être beaucoup plus tranquille avec le fait qu'elle prenne de la distance, de beaucoup moins rentrer dans les jeux émotionnels, ce qui fait que ça m'a beaucoup moins coûté au quotidien, et... J'en suis convaincue, c'est ce qui fait aussi que l'association a pu perdurer, a pu dépasser cette phase de distanciation, cette phase de difficulté, et finalement continuer à porter ses fruits, et pour elle et pour moi, et que l'association professionnelle a été extrêmement fructueuse, parce qu'elle a été, entre guillemets, nettoyée, déparasitée de l'association émotionnelle qu'il y avait en dessous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à saper notre confiance en nous, parce que encore une fois, comme pour les relations amoureuses, on se dit bah, « j'ai pas fait le bon choix » ou « à chaque fois j'y arrive pas », « à chaque fois c'est un échec », « à chaque fois je me retrouve à être rejetée par l'autre », « à être blessée », « à être plus aimée », « qu'est-ce qui cloche à l'intérieur de moi ?» Et on croit qu'on est voué à vivre ces schémas ad vitam aeternam. Mais en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à les voir comme étant seulement un schéma à l'intérieur de moi qui se joue, et pas toute ma personne, pas l'entièreté de ce que je suis, et du coup toute ma vie passée, présente et à venir. C'est juste un schéma, ou des schémas. Et si j'en prends conscience, si j'arrive à les faire bouger, à ce moment-là, je peux retrouver beaucoup de liberté par rapport à tout ça. Alors la huitième cause, c'est la tendance naturelle de notre cerveau humain à repérer les risques, les problèmes, les couacs, les choses qui pourraient ne pas bien se passer ou les indices qu'il y a anguille sous roche et baleine sous gravillon. Et ça, il faut bien comprendre que, en fait, c'est le fonctionnement humain par défaut. On est l'espèce des primates la plus stressée. C'est-à-dire que c'est chez nous qu'il y a les plus hauts niveaux de stress avec toutes les hormones et fonctionnements physiologiques qui vont avec. De tous nos cousins primates. Et a priori, Et a priori, là où en est la science aujourd'hui par rapport à ça, c'est que ben, c'est ça qui nous aurait fait survivre. C'est-à-dire que c'est un trait adaptatif de notre espèce qui nous a fait survivre et qui nous a même fait, plus que survivre, qui nous a fait nous développer autant et être capable de créer tout ce qu'on a créé. Ce serait en partie parce qu'on est autant stressé. Alors, bien sûr, c'est à remettre dans un contexte parce que au quotidien, on sait que le stress, au contraire, a tendance à nous paralyser, à nous empêcher de faire les choses, à nous ronger de l'intérieur, qu'il a des conséquences sur notre santé qui sont incroyablement délétères et ça, la médecine nous le répète en permanence et l'a suffisamment prouvé. C'est corrélé avec toutes sortes de maladies, de cancers, de problèmes de cœur, de tout ça. On sait que ça nous fait vieillir à vitesse grand V, etc. Donc, c'est pas une stratégie de survie au niveau de l'individu. Mais c'est important de savoir que notre cerveau est surentraîné à percevoir les problèmes et qu'on a un fonctionnement physiologique qui va, par défaut, dans cette direction-là. Ce qui veut dire aussi que si j'ai l'impression de ne percevoir que des risques et des problèmes, c'est pas parce qu'il y a que des risques et des problèmes. C'est juste parce que mon cerveau les perçoit plus, mieux et plus rapidement que le reste. Donc par rapport au sujet de la confiance en soi, si chaque fois que je veux oser quelque chose, tout de suite mon cerveau me dit « Oui, mais et s'il se passait ça ?» ou « Ah, mais est-ce que t'es sûr que tu vas pas passer pour un débile ?» ou etc., etc. C'est parce qu'il est surentraîné à ça. Pas parce que ces risques sont réels, ni même qu'ils sont plus probables que l'alternative qui serait que les autres vont trouver que je suis génial à oser quelque chose, par exemple. Non, non, c'est juste parce que mon cerveau perçoit d'abord ces risques-là.
Et c'est sûr que c'était très utile à l'époque où on vivait dans une caverne et où le fait qu'une feuille bruisse ou qu'un petit morceau de bois craque pouvait être une information qu'un animal sauvage allait nous attaquer. Donc à ce moment-là, le fait que le cerveau cherche à créer le scénario du pire à chaque information qu'il perçoit avait un réel sens de survie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans une caverne. Donc tous les signaux que notre cerveau surinterprète automatiquement comme étant des dangers a, comme tu le disais, des conséquences sur nous de créer une forme de stress permanent.
Oui.
Et du coup, il ne faut pas s'étonner qu'on soit systématiquement en train de se dire « Ah mais attends, est-ce que tu es sûr que ça va marcher ? Mais ah mais non, ah mais je ne sais pas. » Et en fait, on se concentre sur les choses qui ne fonctionnent pas, on se concentre sur les risques, alors qu'au contraire, pour construire de la confiance en soi, on aurait vraiment besoin de l'inverse, c'est-à-dire de célébrer ce qui fonctionne.
Oui.
C'est-à-dire de pouvoir prêter de l'attention et concentrer notre conscience et notre regard sur les choses qui fonctionnent bien, les célébrer, concrètement, faire la fête, pour créer des mécanismes hormonaux agréables pour que notre corps ait envie de répéter l'expérience. Parce que c'est ça qui crée de l'élan, c'est ça qui crée de l'envie, et c'est ça qui, du coup, in fine, crée de la confiance en nous, c'est-à-dire la croyance selon laquelle « Ah oui, je peux entreprendre cette chose, je vais réussir, en plus de ça c'est agréable, donc j'ai toutes les bonnes raisons de l'entreprendre. »
C'est ça. Souvent, je prends l'image d'un sillon. C'est comme si vous avez un sillon qui est déjà creusé, par exemple, dans un morceau de bois ou quoi que ce soit, et que vous essayez de passer à côté. Souvent, en fait, on va retomber dans le sillon, parce qu'il y a comme une force qui nous attire, quelque chose d'une gravité, ou je sais pas de quel ordre, c'est qui fait qu'on va retomber dans ce sillon-là. Ben, en fait, là, c'est la même chose, c'est un sillon mental. C'est que on est surentraîné à voir tous les endroits où on pourrait potentiellement ne pas être à la hauteur. Et du coup, si ça fait des années que je me raconte ça, que je me raconte que je suis pas à la hauteur, si ça fait des années que je regarde là où je pourrais ne pas être suffisamment bien, et encore une fois, ça dépend aussi comment on définit bien. Est-ce que bien, c'est réussir tout ce que j'entreprends, ou est-ce que c'est entreprendre, tout court. Mais en tout cas, si le jugement que je porte sur moi depuis des années, il est plutôt négatif, à ce moment-là, mon cerveau va aussi avoir tendance à percevoir et à porter de l'attention et à mémoriser les éléments qui vont corroborer ça. Et à l'inverse, à ne même pas percevoir ou bien percevoir mais invalider les éléments qui seront la preuve du contraire. Donc, j'ai l'impression que y a une chose que j'ai pas faite bien, ou etc. Et en fait, je vais voir cette chose et je vais ignorer toutes les autres choses autour qui pourraient me montrer que j'ai fait bien, ou que c'était génial de tenter, ou que c'est pas si mal passé, ou que je ne sais quoi. Mais ça, je le vois pas parce que mon cerveau va percevoir ce à quoi je pense déjà. Et du coup, on ne peut jamais construire de confiance en soi, comme tu dis, puisqu'on ne peut jamais percevoir ces choses positives et valorisantes. Le point numéro 9, il découle de ce point numéro 8, c'est le mindset, donc la tournure d'esprit sociétale, dans laquelle la réussite est atteinte par le fait de voir ce que je pourrais faire mieux, par le fait de m'améliorer, et du coup par le fait de voir ce qui manque ou ce qui n'est pas encore assez bien. Et on croit que c'est comme ça qu'on va encourager les enfants à apprendre, les adultes à se réaliser, etc., en leur disant toujours et souvent d'abord ce qui ne va pas, ce qui pourrait être fait mieux, ou en croyant qu'on doit donner des conseils systématiquement, dès que quelqu'un nous parle de quelque chose, « Ah, je dois donner un conseil », Et on voit bien, nous, par exemple, dans notre projet de Je vais mieux et ce podcast, etc., quand on en parle aux gens ou quand on leur fait écouter ou quoi que ce soit, la première réaction, c'est de nous dire quelque chose qui pourrait être fait mieux ou qui dans leur tête ou qui manquerait ou que ah, peut-être on pourrait faire encore autrement. Et c'est vraiment, c'est quelque chose de tellement automatique que, en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça crée. Et c'est souvent fait, bien sûr, avec l'intention de nous aider à atteindre une encore meilleure réussite ou à pouvoir, bien sûr, nous améliorer, mais dans un sens qui est toujours en train de dire ce qui manque ou ce qui n'est pas encore suffisamment bon.
Et c'est vrai que cette manière de vouloir prévenir l'autre des dangers, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que la personne tout de suite te dit « Ah, mais t'es sûr que tu vas réussir ? Ah, mais attends, est-ce que t'as pensé à ça ? Parce que ça, quand même, c'est quand même compliqué si tu... Est-ce que t'as vu ce risque ? Est-ce que t'as vu ce danger ? Est-ce que t'as pris en compte cette chose ? Ou est-ce que... Et si ça marchait pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que t'as un plan B ? Est-ce que t'es sûr que ça va fonctionner comme ça ? Tu devrais faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça ? En fait, on parle inéluctablement avant tout des risques.
Oui.
Plutôt que des points forts qui valoriserait l'idée, qui valoriserait le comportement, qui valoriserait le mouvement qu'on est en train de créer. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça aussi, c'est encore une fois lié à ce mécanisme de la société qui valorise, enfin qui part de la réussite, on va tout de suite critiquer tout ce qui ne va pas en croyant que ça va permettre à l'autre de faire mieux.
Oui.
Alors qu'en fait, ça fait mal.
Oui, ça fait mal. C'est pour ça, essayez de chercher dans votre mémoire, est-ce que vous avez vous-même vécu des situations comme ça, où en fait vous êtes arrivé avec une envie, une idée, un projet, un rêve, n'importe quoi, et vous en avez parlé à quelqu'un, et en fait cette personne, d'emblée, son discours a été plutôt négatif, ou plutôt tourné vers les risques, ou plutôt tourné vers « ben tu devrais faire autrement », ou « ah moi je m'y connais », ou je sais pas quoi. Essayez de retrouver si vous avez des souvenirs comme ça, parce que souvent ils ont inscrit quelque chose à l'intérieur de nous inconsciemment qui était que, en fait, on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes, voire on n'est pas capable de le faire tout court, parce qu'il y avait toutes ces choses qu'on n'avait pas encore pris en compte. Et t'imagines, s'il y a tous ces risques que j'ignore, il y en a peut-être encore d'autres, et chaque fois que je vais me lancer dans quelque chose, il y aura encore tous ces risques que je vais ignorer. Et donc il faut que je demande l'avis de plus en plus de monde, mais plus je demande l'avis de gens, et plus j'ai des retours négatifs ou de risques ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que je sois tellement noyée par la peur que ce truc ne marche pas, que je vais finir par l'abandonner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... encore une fois, sape notre compétence à entreprendre. Et c'est entreprendre pas forcément dans un sens professionnel, hein. Ça peut être entreprendre dans une relation, dans une situation, juste entreprendre de faire quelque chose, de prendre un risque, de tenter, de oser, encore une fois. Mais chaque fois, il y a toutes ces restrictions qui nous viennent à l'esprit, parce qu'on est habitué, un peu comme on disait au point précédent, avoir d'abord les risques, avoir d'abord les problèmes, et qu'en général, ça a été renforcé par le mindset culturel et sociétal qu'on a, qui ne nous encourage pas à tenter, mais nous encourage plutôt à être bien, 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 bien sûr de nous, avoir tout sécurisé, toutes les options, toutes les issues, toutes les etc., avant d'oser quoi que ce soit. Et ça, c'est incroyablement délétère. Et puis le dernier point qui est parfois plus difficile à identifier, c'est le fait que je n'ai pas conscience de ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Si j'ai pas conscience de ma part de responsabilité, donc j'ai pas conscience de en quoi est-ce que cette chose arrive en partie par moi, par mes actions, par mes choix, par mes décisions, par mon attitude, par tout ça. Si j'ai pas conscience de cette part de responsabilité qui m'appartient, alors je vais avoir cette sensation d'être en permanence, comme on disait tout à l'heure, à la merci d'eux, d'être en permanence victime de ce qui m'arrive, d'être en permanence une petite brindille ballottée par les grandes vagues de la vie. Et en fait, je me place moi-même toujours dans une position passive qui est injuste envers moi-même, parce que je ne suis pas une petite brindille passive ballottée par la vie, je suis un ou une adulte pleine de force, de détermination, de courage, qui peut choisir, qui peut vouloir, qui peut entreprendre, etc. Et puis, c'est injuste et c'est illusoire, parce que c'est pareil, j'ai jamais zéro responsabilité dans une situation, j'ai jamais zéro pouvoir sur ce qui est en train de se passer. Mais si je me place moi-même dans cette position de victime, alors je me prive moi-même de cette part de responsabilité et donc de cette part de pouvoir et de liberté. Donc quelque part, je contacte jamais ma puissance à choisir, à vouloir, à mettre mes limites, à prendre soin de moi. Et du coup, j'ai cette sensation que je ne peux pas compter sur moi puisque je ne suis pas aux commandes. Puisque ce qui se passe ne relève pas de moi et que je ne suis que en train de le subir, ça veut dire que je n'ai aucun pouvoir dessus et donc que je ne peux pas me faire confiance dans le fait que je vais pouvoir réorienter la barre si ça va pas, faire autrement, poser une limite en tout temps et que je vais être ma meilleure alliée. J'ai pas ce sentiment-là puisque j'ai le sentiment de n'avoir aucun pouvoir et d'être cette petite brindille ballottée par la vie. Donc la confiance en soi, elle suppose d'avoir cette sensation que je suis capable, que j'ai du pouvoir, que j'ai de la liberté, que j'ai de la force, que je peux compter sur moi-même. Et ça passe par le fait de reprendre mon pouvoir de choix et d'expression dans ma vie. Et pour pouvoir reprendre ce pouvoir de choix et d'expression, il faut que je puisse reprendre ma part de responsabilité et donc de liberté de faire autrement dans la situation.
En conclusion, on aimerait partager avec vous le point commun finalement de ces 10 causes.
Oui.
C'est que toutes ces causes ont pour conséquence de créer en nous des croyances. Alors qu'est-ce que c'est une croyance ? Une croyance, c'est une émotion collée sur un événement, sur une information, sur un fait. C'est la manière que l'on a eue de vivre quelque chose et de le ressentir physiquement dans son corps et de lui donner un sens qui va se solidifier à l'intérieur de nous. Et ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que je vais considérer naturellement qu'une croyance est vraie. C'est-à-dire qu'une croyance, elle est vraie parce que je crois que cet événement va systématiquement toujours redéclencher cette émotion à l'intérieur de moi. Donc en fait, elle est décontextualisée. Elle n'est plus en lien avec ce qui est en train de se passer. Elle est vraie a priori. Et c'est ça qui fait que c'est aussi difficile d'en sortir. C'est parce qu'on a ancré à l'intérieur de nous, du coup, la croyance, que cette chose était vraie tout le temps. Du coup, dans le temps, ben, la croyance va se renforcer. Parce que je suis moi-même en train de me re-raconter la même histoire à propos du même événement en régénérant la même émotion, donc je la revalide, donc je confirme qu'elle est vraie.
C'est ça.
Et progressivement, dans le temps, par ce processus d'auto-validation, la croyance va se renforcer. Au point qu'une autre personne qui vit quelque chose, qui vit le même événement d'une manière complètement différente, même si elle nous dit « Non mais attends, c'est pas grave, pourquoi t'en fais tout un plat de cette histoire ?» En fait, on n'arrive pas à comprendre ce que la personne est en train de nous dire. On n'arrive même pas à imaginer que pour elle, ce ne soit pas aussi important que pour nous, parce qu'on a construit à l'intérieur de nous la certitude que cet événement-là, il a ce sens-là, il a cette valence émotionnelle-là, il a cette douleur-là, il a cette difficulté-là. On en est complètement convaincu.
C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi là que réside tout notre pouvoir de guérison et de résilience. C'est que si on fait changer l'histoire, si on fait changer l'interprétation et le sens qu'on apporte à l'événement, alors on fait changer l'émotion qui y est associée. Et du coup, on fait changer tout ce qu'on vit par rapport à cet événement. Et c'est là que les causes qu'on a nommées avant, elles sont importantes, et c'est important de pouvoir bien les comprendre, comment est-ce que ça fonctionne, parce que encore une fois, si on reprend par exemple l'exemple de la toute première sur les messages invalidants dans l'enfance, quand l'enfant reçoit une copie sur laquelle il y a écrit « nul », lui, il ne peut que interpréter que c'est lui qui est nul. Il ne peut pas le mettre à distance, il n'arrive pas à voir en quoi est-ce que c'est juste une copie, il ne peut pas se dire « mais c'est pas grave ce que ce prof pense de moi, ça ne déterminera pas toute ma vie et de toute façon je serai heureux quand même et je ferai quelque chose et puis ça sera très bien ». Il n'a pas tout ce recul-là. Donc, il reçoit le fait, il y a le fait de recevoir cette dictée, cette copie avec écrit nul, il y a la façon dont il l'interprète, je suis nul, et du coup il y a la valence émotionnelle qui va avec, de douleur profonde, de honte, d'humiliation, de peur, etc., etc. Et si on arrive à changer l'histoire qui est racontée et à pouvoir recontextualiser ou bien à pouvoir se pardonner nos erreurs, comme on l'a dit dans un des points aussi, une des causes du début. Si on peut revisiter notre histoire, revisiter les vieux schémas, les comprendre, les faire bouger, etc. Chacune de ces causes, en fait, on peut les faire évoluer. En tout cas, l'interprétation qu'on en a, on peut la faire évoluer pour que non seulement ça ne crée plus ces émotions négatives, mais même si c'est possible, que ça crée la confiance en soi, que ça crée la confiance sur le fait que j'ai osé, sur le fait que je peux tenter, sur le fait que je suis humain, sur le fait que c'est ok, etc., etc. Et ça va être tout le sujet de la suite de cette série sur la confiance en soi. Comment est-ce qu'on crée des nouvelles histoires à l'intérieur de nous, des nouvelles interprétations, des nouvelles façons de voir et du coup des nouvelles émotions qui vont au contraire construire de la confiance en moi et arrêter de la saper.
Rendez-vous la semaine prochaine, on sera ravis de vous retrouver et de partager ça avec vous.
Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution? Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants? Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes. C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant? Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr/3C et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.